Vous écoutez France Culture.
Les vendredis de la philosophie, notre sujet aujourd'hui, Nietzsche, toujours intempestif. En s'attaquant à la métaphysique, Nietzsche a voulu briser non seulement les idoles de la culture occidentale, mais aussi la grammaire qui les a construites. Ses œuvres sont des armes qui font la guerre aussi bien à Socrate, au Christ, qu'aux antithèses qui hiérarchisent la vérité et les apparences, l'âme et le corps, le bien et le mal. Penseur de la vie, de l'affirmation, il a traqué les ressorts psychologiques des grandes abstractions et le ressentiment qui les anime. Sa critique généalogique a durablement jeté le soupçon sur la philosophie et ses concepts. Ignoré de son vivant, Nietzsche est devenu la pierre de touche pour évaluer les discours philosophiques. Il fut la référence majeure des années 60 et 70, et dans les années 90, il regroupa même contre son nom des collectifs de philosophes. Nietzsche, inactuel, reste-t-il intempestif ? N'est-il pas menacé à la fois par la vulgate hédoniste et par la vivisection universitaire ? Ce sont des questions que je vais poser à mes invités. Éric Blondel, professeur à l'Université de Paris 1. Monique Dixot, professeur émérite à l'Université de Paris 1. Mathieu Kessler, maître de conférence à l'UFM d'Orléans-Tours. Et Philippe Solers. On ne vous présente plus Philippe Solers. Hein, vous êtes un de nos écrivains les plus inventifs et les plus cultivés depuis presque une cinquantaine d'années. Alors je vais commencer par une question, la réception de Nietzsche. Je disais, des années 60-70, c'était la référence majeure. Qu'en est-il aujourd'hui ? Bon, il y avait eu aussi quand même, n'oublions pas, la réception par Bataille, par Klossowski. Alors, comment on peut expliquer cette réception à la fois, je dirais, très vive, très glorieuse, et puis, ces attaques, on a l'impression qu'on doit toujours se situer par rapport à Nietzsche, par rapport à quelqu'un qui a mis en cause la philosophie. Alors, qui veut bien accepter de répondre à cette question sur la réception ? Je m'adresse à peut-être un universitaire, Éric Blondel, ou Mathieu Kessler, qui se lance. Monique Dixot, alors allons-y. Alors, Monique Dixot.
Je ne vais pas du tout répondre à votre question.
Allons bon.
Je vais poser la question de votre question.
Oui.
Parler de la réception de Nietzsche, parler des interprétations de Nietzsche, cela fait partie de ce qu'on appelle l'histoire des idées. Dans le cas de Nietzsche, l'histoire des idées est souvent l'histoire de sa récupération idéologique. Et vous avez parlé des années 60-70, bon, ce n'est qu'une des récupérations idéologiques. Il y a eu d'abord la récupération nazie, etc., on la connaît bien. Et ces années ont été gouvernées par une très curieuse trilogie qui n'était pas seulement Nietzsche, mais Marx, Freud, Nietzsche. Très curieuse parce que, en fait, leur herméneutique est pratiquement contradictoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que, pour ma part, ce qui m'intéresse, ce n'est pas du tout la réception de Nietzsche,
d'accord,
les commentateurs de Nietzsche, mais la pensée de Nietzsche.
Alors,
pourquoi je ne réponds pas.
Ça commence
à votre
brutalement
question.
Parce que, moi je vais vous dire tout simplement mon expérience, d'un étudiant en philosophie qui a découvert Nietzsche grâce à un livre, quand même, qui est celui de Deleuze et qui a été un événement pour la réception de Nietzsche. Alors, je sais bien que, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec la réception de Deleuze, mais enfin, en tout cas, pour un certain nombre d'étudiants, ça représentait une œuvre qui avait une découverte. Il y a eu Granier, il y a eu Michel Arge, il y a eu quand même aussi, à un moment donné, il y a eu un moment de Foucault, puis Derrida, qui a été un moment de relecture pour beaucoup d'entre nous de Nietzsche.
Alors c'est très intéressant, mais c'est moins intéressant que Nietzsche.
Philippe Solers.
Donc, je trouve que Monique Dixot a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire Nietzsche enrôlé dans des ensembles ou dans des collectivités falsifiées. Et en effet, Marx, Freud, Nietzsche. Bon, tout ça, c'est frite. Vous avez cité le nom de Bataille, vous avez cité le nom de Klossowski. Il y a là quelque chose de très étonnant. C'est que Klossowski a traduit un livre de l'allemand que, semble-t-il, aucun philosophe français n'a lu et que lui-même, probablement, n'a pas compris, ce qui est très étrange. On peut donc traduire un livre sans le comprendre. Il s'agit, bien entendu, du sur Nietzsche de Heidegger.
Oui, oui.
Et là, je peux vous démontrer que ce livre est en attente de lecture, qu'il a, il n'a pas été encore vraiment médité et lu. Et là, nous allons tomber. Alors, attention, est-ce que nous avons le droit de parler de Heidegger? Ben, oui, c'est une question très, très, très importante. À mon avis, parler de Nietzsche sans parler de Heidegger, déjà, on commence à être très, très, très en retard, d'autant plus que ce sur Nietzsche, il faudrait savoir si les philosophes français, alors Deleuze, non, Foucault, non, Lacan, non, Derrida, pas vraiment, et voilà, le fond de la question, c'est ça. Alors, donc, Nietzsche est toujours en attente, et je voudrais dire simplement que depuis le 30 septembre, d'après moi, nous sommes en l'an 119, c'est-à-dire que quand même l'important avec Nietzsche, c'est de savoir si oui ou non nous changeons de calendrier avec lui, si nous avons le courage personnel de changer de calendrier. C'est quand même le penseur qui a changé le calendrier.
À rappeler, alors quand même la date initiale,
88. Eh bien, la date initiale, nous sommes le 30 septembre 1888 à Turin. Turin, quelle ville, où Nietzsche a vécu c'est sa dernière époque d'une fécondité absolument extraordinaire, dans une santé absolue. On vous dit que là, on voit quand même des prodromes de la folie, mais pas du tout, c'est le contraire. Et donc, le 30 septembre 1888, c'est la fameuse loi contre le christianisme, qui fait suite à l'Antéchrist, où il dit, voilà, maintenant, tout ça, ça suffit, nous allons entrer dans le premier jour de l'ère du salut, mais vraiment du salut avec un grand S. Et donc, voilà, ils fondent un calendrier. Alors, là, tout de suite, nous avons un certain rapport au temps. Qu'est-ce que ça veut dire de fonder un calendrier seul? Voilà. Parce qu'après tout, le Christ n'a pas fondé un calendrier. Tout le monde emploie, nous signons tous des chèques, la planète entière signe des chèques avec un calendrier économico-politique, sans aucune référence au christianisme. Les musulmans signent en 2006 leurs affaires. Tout le monde, voilà. Donc c'est devenu un calendrier absolument économico-politique, avec des transvasements et des secousses et des séismes religieux. Alors écoutez, Nietzsche, c'est très simple. Parlons vite. Est-ce que Dieu est mort ou se décompose-t-il encore parmi nous? Est-ce que nous pouvons changer de temporalité réellement et de calendrier? Il y a eu des essais, voilà, deux. Et puis quand même, allons droit à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'éternel retour? Oui, non, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce qu'autrement, on va se perdre dans, en effet, une généalogie, de commentaires qui n'a, à mon avis, pas un caractère d'urgence. Nietzsche est urgentissime dans la mesure où nous sommes, oui ou non, dans une certaine temporalité, celle du dieu mort qui continue ses ravages, ou bien alors quelque chose de libre. Absolument.
D'accord. Alors, Eric Blondel, vous êtes traducteur, vous avez aussi écrit des livres sur Nietzsche. Est-ce qu'effectivement, vous avez l'impression qu'il faut sortir Nietzsche de ses récupérations, comme dit Monique Dixot, je trouve le mot très, très brutal, mais bon, ces récupérations idéologiques, est-ce que, bon, finalement, on peut accéder à un vrai Nietzsche?
Disons universitaire, tout simplement, parce que la polémique est là.
Eric Blondel.
Oh, je rappelle quand même que Heidegger aussi était universitaire et pas des plus...
Oui, ça a été sa stupidité, il l'a bien connu, c'est pour ça.
Pas des mieux famés, tout de même. Donc,
Nietzsche aussi était universitaire.
Et Nietzsche lui-même, pour commencer.
Non, il était en disponibilité, il a vécu comme un aventurier sans enseigner, attention.
Il signait jusqu'à la
fin,
il signait professeur docteur Nietzsche.
Eric Blondel.
Jusqu'à la fin, Nietzsche signait professeur docteur Friedrich Nietzsche dans sa correspondance. Donc il y tenait beaucoup. Cela dit, on ne va pas polémiquer là-dessus. Je ne pense pas que les universitaires soient seuls à récupérer. C'est leur travail de diffuser. Pour ma part, j'ai aussi traduit. J'ai enseigné beaucoup sur Nietzsche, oui. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs récupérations. Et plus grave encore que la récupération, il y a eu d'abord la falsification. Jusqu'en 1967, on a vécu, et Deleuze a commenté, et Heidegger a commenté, et un certain nombre d'autres ont commenté sur des textes qui étaient falsifiés, des textes qui étaient le résultat d'une fraude philologique. À partir de 1967, on a commencé à rétablir les textes originaux, y compris les textes originaux des textes publiés par Nietzsche. Et puis les fragments posthumes ont été publiés. Je rappelle que les fragments posthumes, pour Heidegger, comme le souligne Madame Dixo, pour Heidegger, c'était le vrai Nietzsche. Parce que Nietzsche, paraît-il, disait ce qu'il pensait dans ses fragments posthumes, et puis dans les œuvres, il se cachait de la police de Guillaume II, Guillaume Ier, puis de Guillaume II. Bon, Nietzsche a rejeté un certain nombre de brouillons, mais on s'est emparé de ces brouillons pour faire une pseudo-volonté de puissance et faire une sorte de raquette sur les œuvres de Nietzsche,
oui, ça, c'est
dont la récupération idéologique n'est qu'un des aspects et une des conséquences. Nietzsche nazi, bon, c'est la sœur de Nietzsche, et Nietzsche heideggerien par-dessus le marché. Ce qu'il y a, c'est que les grandes œuvres, et on pourrait le montrer pour Deleuze, le grand Nietzsche de Deleuze, c'est une sorte de récupération deleuzienne géniale au profit de Deleuze et au profit exclusif de Deleuze de Nietzsche. Je prends le terme qui est toujours utilisé par référence à la lecture ou la prétendue lecture que fait Deleuze de Nietzsche, c'est l'opposition actif-réactif. Ces deux termes ne se trouvent pas chez Nietzsche. Ils se trouvent seulement dans un texte qui est celui du 11e paragraphe du 2e traité de la généalogie de la morale. Et ça ne veut pas dire grand-chose. Avec ça, on ne peut pas lire Nietzsche. Alors l'important, c'est de le lire, justement, comme vous le disiez. Mais comment le lire ? Il faut commencer par se débarrasser des œillères qui ont été infligées par un certain nombre de grands commentateurs.
Vous ne pouvez pas nier le travail philologique absolument conséquent de Heidegger par rapport à la pseudo-volonté de puissance qui a été éditée à la va-vite, comme ça, et beaucoup utilisée. C'est un remarquable travail de philologie. Allons aux choses fondamentales. Qu'est-ce que ça veut dire l'esprit de vengeance ? Qu'est-ce que ça veut dire le ressentiment ? Qu'est-ce que ça veut dire la moraline ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Hein ? Bon, prenons par exemple Heidegger, Wassers Denken, qu'est-ce qu'il nous appelle à penser ? Il prend cette formule admirable de Nietzsche, qu'il commente très bien, magnifiquement. C'est l'esprit de vengeance. C'est le ressentiment de la volonté contre le temps et son « il était ». Il était entre guillemets. Ça va très très loin, parce que qu'est-ce qui fait que nous sommes plongés dans un nihilisme exacerbé aujourd'hui ? C'est l'actualité. C'est là où nous sommes aujourd'hui avec les ravages du Dieu décomposé et mort, etc. Vous êtes en plein dans une vague nihiliste. Il faut aller au sujet. Alors qu'est-ce que ça veut dire que des humanoïdes qui sont absolument pétris d'esprit de vengeance et de ressentiment, et quel est leur rapport au temps? Ce rapport au temps, c'est précisément là qu'est le sujet.
Alors Mathieu Kessler, ce rapport au temps, parce que là on est, si on entend bien, là les gens qui voilà, il faut
je déteste le temps, parce que je déteste son il était, c'est-à-dire je suis contre le passager, ce qui passe. C'est, au contraire, il faut glorifier, ça c'est la pensée fondamentale de Nietzsche, il faut dire oui à ce qui passe,
il faut le devenir, il faut remercier. Alors ce rapport
Ce
rapport au temps en général chez Nietzsche, et puis aussi sur Mathieu Esther, j'aimerais aussi vous entendre sur ce rapport au temps de la réception, même si elle a été ici congédiée assez rapidement. Mathieu Kessler.
Je vais commencer par répondre à la seconde question. Je partage le malaise autour de cette table pour évoquer la réception. Bon, il y a une histoire de la réception de chaque auteur. C'est vrai que lorsqu'il s'agit d'auteurs qui interpellent au niveau des valeurs, c'est sûr que c'est très tentant de les détourner à son propre profit. Oui. Et ça a été très largement le cas de Nietzsche. Je pense qu'effectivement, on peut essayer de se mettre d'accord sur le fait que mieux vaut partir de l'étude de certains textes de Nietzsche, de certains aphorismes, comme le fait très bien Heidegger dans « Qu'appelle ton pensée ?», qui est certainement, disons, l'interprétation, le travail, justement le moins récupérateur, je pense, de Heidegger, à la différence de son Nietzsche 1 et 2, effectivement, là, qui est extrêmement contestable. Il y a un travail extrêmement contestable.
Oui, contestable, d'ailleurs, il faut préciser, on le sait depuis quand même quelques temps, contestable aussi parce que c'est un texte qui a été publié, qui est tronqué, hein, que
oui, par ailleurs.
On a enlevé des parties ensuite quand ça a été publié.
Mais
archives
Nietzsche
aussi.
Contestable, mais très important.
Oui, bien sûr.
Oui, enfin bon, ça, oui. Disons, ça appartient à l'histoire de la philosophie oui. du XXe siècle, mais je ne suis pas sûr que ce soit si intempestif que ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt, justement, partons, et c'est ce qui nous intéresse autour oui. de cette table, je pense, partons justement des idées de Nietzsche, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui, à nous qui sommes réunis autour de cette table, sans faire référence nécessairement à l'histoire de l'interprétation, de l'exégèse oui. des textes
mais
nietzschéens.
Juste une petite parenthèse quand même, Mathieu Castellard. C'est-à-dire que là, quand même, s'il y avait un enjeu, c'est de dire, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une vérité, voilà, on accède à une vérité de Nietzsche en revenant au texte précisément. C'est quand même ça, quand même, une question
c'est
importante.
C'est pas une vérité, mais ouais. disons au que Nietzsche, voilà, il ouais. est certain que la façon de travailler sur les textes aujourd'hui, je dirais, en fait, depuis en gros une trentaine d'années, s'oblige à une probité philologique, pour parler comme Nietzsche, qui n'a jamais été employée auparavant. Et on peut le déplorer parce que ça peut donner un aspect, n'est-ce pas, trop universitaire aux études nietzschéennes. Bon, c'est aussi la valeur de ce travail universitaire qui a été fait qui est de façon plus récente. Et d'ailleurs, dont on ne parle pas beaucoup, parce qu'on parle des grandes interprétations. Quand on parle des grandes interprétations, on parle en fait des grandes récupérations. Mmh. Et si on ne récupère pas Nietzsche, si on n'écrit pas en fait un oui. essai sur Nietzsche, mais si on fait vraiment oui. une étude universitaire, à ce moment-là, c'est pas une grande interprétation, parce que c'est censé être servile, etc. Alors qu'il s'agit simplement oui. d'essayer de lire honnêtement l'auteur.
Oui, oui. Monique Dixot.
Alors justement, c'est sur ce problème de la lecture de Nietzsche que je voudrais rapidement intervenir. Nietzsche nous dit ce que signifie selon lui bien lire, et il dit ce qu'il attend de ses lecteurs, d'être des philologues parfaits. Quand il parle de la philologie, il dit toujours que c'est l'art de bien lire. Pour bien lire, il faut lire lentement. Seuls les philologues savent lire lentement. Alors qu'est-ce que c'est que bien lire? C'est d'une part avoir des méthodes, et la philologie nous fournit ces méthodes, selon lui. La philologie a toujours été pour lui un modèle à la fois méthodologique et épistémologique, puisque toute science consiste à interpréter un texte, le texte de la nature, le texte de l'homme, le texte, etc. Mais pas seulement, il faut des méthodes, mais il faut aussi des vertus. Mathieu Kessler vient de parler de probité. Il faut de la probité, il faut de la justice.
Oui, ce qui n'est pas quand même toujours le cas de ces lectures. Oui,
mais si, beaucoup plus que vous ne croyez.
Il y va au marteau aussi. Hein.
Mais le marteau n'est pas destructeur. Pardon, je voudrais finir sur la justice, sur la vertu. Il nous dit qu'il faut de la chaleur et de l'enthousiasme pour rendre justice à une chose qui relève de la pensée. Alors, ce que vous entendez depuis le début par universitaire, semble-t-il, enfin, si je peux me permettre, c'est justement une lecture qui ne serait que méthodologique. Ça ne me paraît pas exact. Autrement dit, je crois que pour bien lire Nietzsche, il faut être nietzschéen, non pas au sens où on épouse des thèses, où on reprend ses sentences comme autant de slogans. Être nietzschéen, ça veut dire apprendre à bien le lire, et apprendre à bien lire tout court. C'est-à-dire, encore une fois, à unir ce qui est, me semble-t-il, est extrêmement difficile, de la rigueur méthodologique et de l'enthousiasme.
Monique Dixot, on pourrait quand même rappeler, par exemple, le Crépuscule des idoles que vient de traduire Eric Blondel, là, vous avez des passages quand même sur Socrate, vous qui êtes une platonicienne avant toute chose.
Je peux vous citer des passages quand même dire, absolument contradictoires.
Non, mais je veux dire, quand il parle de Socrate, je ne peux pas dire que ça soit toujours avec un grand souci de lecture. Vous pouvez le montrer, effectivement, qu'il y a une proximité, mais bon, il y va, c'est une psychologisation très forte, il faut traiter...
C'est une psychologie de tout philosophe.
Je suis pas sûr. Philippe Soler,
est-ce que je peux rebondir sur cette question de la lecture? Voilà, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Guy Debord, qui a dit la chose suivante et qui me paraît très juste. Pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Autrement dit, moi je crois que le moment est venue de considérer Nietzsche comme l'aventurier qu'il a été, c'est-à-dire en effet un très bon philologue, mais tout le contraire de quelqu'un qui reste assis dans une bibliothèque, qui donnerait des cours, mais même s'il était en disponibilité de l'université, ça c'est de l'argent. Mais enfin, qui a vécu d'une certaine façon ce que tous ces textes nous disent, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas le lire sans faire l'expérience personnelle de la façon dont ce penseur vit. Et ça, je crois que c'est la chose qui est encore en attente. Nous devons nous demander comment ce philosophe a été tout sauf un philosophe de cabinet, un philosophe assis, et comment il n'arrête pas de bouger, il n'arrête pas de voyager, pourquoi il est si sensible au climat. Oui. Il faut lire Ecce Homo de ce point de vue, qui est un énorme chef-d'œuvre. Qu'est-ce que c'est comme expérience personnelle, la pensée avec un corps qui assume cette redoutable tâche de refonder la pensée de refonder le corps qui pense. Moi, je crois que c'est ça qui est très intéressant, d'autant plus que Nietzsche, vous savez, a été malade très souvent. Il l'écrit, etc. Il faut lire sa correspondance, il faut lire la façon dont il vit. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, qui nous met à 100 000 lieues de, en effet, des abstractions et des discussions policées entre philosophes. Comment est-ce que Nietzsche a changé votre vie personnelle? Voilà ce que j'ai envie de demander.
Alors, la question du corps me paraît très, très, très importante ici, parce qu'à la fois, il y a une sorte effectivement de lecture un peu rapide de Nietzsche qui dit revalorisation du corps, donc du coup, voilà, hédonisme, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça, évidemment. Bah, qu'est-ce qu'on entend par le corps? Bon, Eric Blondel, vous...
Pas du tout un hédonisme.
Vous avez même commencé votre travail, je crois, par cette question du corps chez Nietzsche.
Oui, parce que c'est une question centrale, mais enfin, j'ai surtout voulu insister sur le fait que on peut dire toutes sortes de choses sur Nietzsche, et comme l'a dit un commentateur américain qui est d'avant-garde, que personne d'ailleurs n'a traduit en France, Walter Kaufmann, il y a beaucoup de paltoquets qui ont écrit sur Nietzsche. Alors, on peut dire n'importe quoi sur des grands thèmes, mais l'important, c'est d'arriver quand même... Je n'accepterai pas, par exemple, certains essayistes dont je ne voudrais taire le nom.
Pourquoi?
Mais, et Heidegger,
radio,
en particulier, Heidegger est un voyou avec les textes et avec une certaine façon de récupérer Nietzsche qui privilégie, par exemple, des thèmes et des thèmes qui n'apparaissent
est-ce
très
voyou,
tardivement dans son œuvre.
Est-ce que le mot voyou est bienvenu? Le mot voyou? Vous êtes en pleine moraline, là.
mais Nietzsche lui-même utilise ce genre de
le voyou, détermination. Le voyou public, oui, ça c'est bon. En fait, c'est le forcené dans Zarathoustra. Mais enfin,
et le dévergondage de l'esprit moderne,
le
dévergondage de l'esprit moderne, c'est une formule de Nietzsche.
Qui lise mal, hein,
oui. Alors, non, ce que j'ai simplement voulu faire, pour ma part, c'est d'une part souligner qu'on ne peut parler de Nietzsche, aborder Nietzsche qu'en essayant de le lire et d'une façon suivi et méthodique et sans extraire un certain nombre de formules toutes faites pour faire de grandes interprétations, parce qu'il les fait et il les défait. D'une part, c'est le premier point. Mais d'autre part, il y a une antinomie chez lui entre la lecture, le texte, l'écriture, la philosophie et la pensée, etc. Et ce qui le soutient, ce qui aussi conteste la pensée, à savoir le corps, les pulsions, les affects. Bon. Et il y a une tension chez lui. S'il pense, s'il écrit, c'est comme s'il faisait de la morale, c'est-à-dire comme s'il entrait dans un des grands mots qui ne sont jamais utilisés, et pourtant que Nietzsche utilise à tout bout de champ, c'est le mot idéalisme. D'un bout à l'autre, le mot idéalisme. La guerre de Nietzsche, c'est contre l'idéalisme.
Absolument.
Ça ne consiste pas à être universitaire, comme si universitaire signifiait en effet mal élevé, crétin, complètement et toujours assis. Non, il ne s'agit pas de faire des travaux universitaires, il s'agit de, comme Lille de Lisée lui-même, de faire de la philologie, de lire et de méditer une demi-heure sur 6 lignes. C'est le métier qui parle chez Nietzsche. Et d'un autre côté, il se méfie des philologues, des lecteurs, des philosophes, des métaphysiciens, et surtout du temps présent, parce que ça lui paraît complètement faire disparaître ce dont il est question au fond, à savoir la volonté, à savoir le corps, à savoir la vie. Il y a donc dans l'idéalisme une tentative pour éliminer, refouler et nier la vie et le corps. Bon, là-dessus, bien entendu. Et c'est en cela qu'il est intempestif. Alors, il est intempestif d'une façon que j'aimerais préciser, puis après je me tais. Je vous promets que
l'universitaire
va pas la fermer.
Non.
C'est intempestif est un mot pour lequel, enfin le mot allemand, c'est un mot pour lequel la langue française n'a pas vraiment d'équivalent. Je suis tenté, je l'ai dit d'ailleurs dans ma note de traduction du cas Wagner, où il utilise l'adjectif hors temps, zeitlos, et d'autre part unzeitgemäß, c'est-à-dire intempestif. Cela signifie au fond ringard, qui n'est pas au bout du jour, qui n'est pas du tout dans le coup, complètement hors du coup. Et Nietzsche se place au fond hors du temps, mais non pas dans l'éternité métaphysique.
L'éternel retour, excusez-moi, c'est quand même
mais il n'en parle plus au moment où il parle d'intempestivité, à la fin de sa carrière. L'éternel retour, il apparaît, puis il disparaît, c'est curieux.
Dites-moi, la question de l'idéalisme. Vous touchez là un point, à mon avis, central. Et je voudrais insister sur la dernière lettre qu'il adresse à Malvida von Meissenburg, n'est-ce pas, qui le chaperonnait, qui voulait le marier, etc. Voyons ça. C'est la question femme qui surgit là, d'une certaine façon, parce que vous savez que Malvida était une wagnérienne tout à fait convaincue, qui n'aimait pas du tout que Nietzsche s'en prenne comme ça à cet énorme continent wagnérien. Elle n'a pas aimé le cas Wagner, etc. Et alors, tout à coup, ils étaient très amis, apparemment, du moins. Elle voulait le marier, vous dis-je. Et donc, il lui écrit, écoutez, elle a écrit un livre tout à fait saisissant qui s'appelle « Mémoire d'une idéaliste ». Alors, Nietzsche lui dit, ben écoutez, au fond, maintenant, voilà, maintenant, je vais vous parler clair, rompre, par écrit, voilà, déclaration de guerre. Vous êtes une idéaliste, parce qu'au fond, peut-être que l'idéalisme est... oui, c'est peut-être dans la lune qui se passe, oui. Et alors, il lui dit, j'appelle l'idéalisme l'insincérité faite instinct. Je trouve cette formule extraordinaire. L'insincérité faite instinct. C'est-à-dire que, ben oui, alors on revient au vrai ou à la probité. C'est un bon mot, la probité. Mais enfin, donc, il y aurait du mensonge constamment. Oui, oui. Constamment, alors, par idéalisme.
Oui, Philippe Sellers, donc mensonge à propos, effectivement, de
le mensonge de aux yeux bleus, oui, comme il dit aussi, c'est admirable.
Mais je reviens quand même à cette question du corps, parce que dans les renversements que Nietzsche opère, donc sur, effectivement, les antithèses, concepts, métaphores, âme, corps, etc., vérité, apparence, donc est-ce qu'il n'y a pas un risque, une tendance, finalement, à, tout d'un coup, à renverser tout simplement le rapport et à glorifier le corps en lui-même? Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par corps? Je crois qu'il y a quand même il y a une précision à faire sur ce que c'est que le corps chez Nietzsche, parce que c'est pas simplement le corps des plaisirs, il me semble, qu'il y a beaucoup plus que
c'est
ça.
Le corps de la danse.
Voilà. Mathieu Kester.
Dionysos est un dieu.
Il faudrait,
Quand même parler de Dionysos un peu.
Oui.
Je sais pas, moi j'aime bien Dionysos.
Eric Blondel.
Conclu sur Dionysos, philosophos.
Mais pour ce qui concerne le corps, le gros problème de Nietzsche est le suivant, c'est que si en effet tout vient du corps, tout part du corps et tout se ramène au corps, c'est ce qu'il appelle la psychologie ou la généalogie, le corps au sens large, c'est-à-dire les affects ou les instincts, mais surtout les affects, ce corps, il est obscur. C'est-à-dire que nous n'en avons que les signes. Et le langage n'est que le signe, la morale, les idéaux, tout cela, la métaphysique, la philosophie, ce n'est que le signe, le symptôme. La morale est une symptomatologie de quelque chose qui reste caché. Ce qui fait que Nietzsche se proclame philosophe médecin très bien. Ça veut dire qu'il faut penser au corps et que le corps ne doit pas rester le cul vissé sur une chaise comme Flaubert qui disait qu'on ne peut penser et écrire qu'assis. Je te tiens là, nihiliste. Mais ce qui veut dire qu'il est absolument impossible de déterminer ce que Nietzsche définit comme étant le corps, parce qu'il n'est pas véritablement médecin. Il n'y a pas de physiologie objective chez Nietzsche. Il y a simplement un renvoi interprétatif à certaines agitations de pulsions dans le corps, à des conflits, des conflits mouvants.
Nietzsche lui-même, c'est quelqu'un qui fait quoi? Qui vous dit, à longueur de temps, je suis de lire sa correspondance, qui marche 4 heures par jour, il marche beaucoup, sans arrêt. C'est en marchant que son idée abyssale lui vient, Sylvain Planal, au bord du rocher, là, en forme de pyramide, c'est en marchant. Ce qui ne se fait pas en marchant n'existe pas. Alors, sur le corps, tout le monde ment. On se ment sur son propre corps. Le docteur Freud est venu aussi pour dire un certain nombre de bricoles qui sont quand même très importantes. Donc, en marchant. Et puis, surtout, ce qui est extraordinaire, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il écrit tout le temps. Alors, imaginez une journée de Nietzsche à 6 heures du matin, etc. Il écrit. Il envoie ses textes. Il reçoit les épreuves. Il les corrige. Il les renvoie immédiatement. Donc, voilà un corps, celui-là, qui est malade, avec des vomissements, des maux de tête, Non, marche à longueur de temps. Essayez donc de marcher 4 ou 5 heures par jour et d'écrire en plus ce qu'il écrit à ce moment-là. C'est étourdissant. Il y a un seul exemple, à mon avis, de fécondité pareille, dans des circonstances très difficiles, c'est Mozart. Vous avez là quelque chose de très énigmatique, c'est-à-dire une extraordinaire fécondité créatrice dans des difficultés matérielles et physiologiques très importantes. Donc c'est ça. Qu'est-ce que c'est que d'avoir ce corps-là? Eh bien, Nietzsche écrit tout le temps.
Monique Dixo.
Alors, je voulais dire,
il change de corps.
Je voulais dire simplement une chose. On n'a pas menti sur le corps, on l'a refoulé. C'est ça l'idéalisme.
Bah, ça revient
bien. Mais le corps ment. Le corps est artiste pour Nietzsche. C'est notre corps qui est menteur, qui est initialement, originairement menteur. C'est-à-dire que c'est lui qui... Le corps est une foule de conscience, de pulsions en conflit, et ces pulsions sont dans des équilibres instables. Mmh. Bon. Perpétuellement instable. Mais c'est le corps qui accommode le monde de telle façon que nous puissions y vivre. Et son interprétation est une simplification, une falsification. C'est par notre corps que nous percevons des choses, des qualités, des régularités, etc. Mmh. Toutes choses qui sont mensongères. Autrement dit, le corps, c'est le corps qui d'abord est idéaliste. C'est ce que je voudrais bien souligner, et c'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire que c'est le corps qui, précisément, appauvrit le réel, parce que le réel, tel qu'il est, le réel, dans sa multiplicité, de devenir et de devenir conflictuel, ce réel, nous ne pourrions pas y survivre une seconde. Oui, oui. Et je voudrais revenir, si vous me permettez, à la question posée par Philippe Soller, c'est-à-dire à la question du rapport de Nietzsche au temps. Je crois qu'il y a deux choses, parce que Nietzsche était, il ne faut pas l'oublier, un helléniste, un grand helléniste. Il a été un grand philologue. Mmh. Et il prétend toujours l'être resté, d'ailleurs. Il ne confond pas temps et devenir. Les Grecs ne confondaient pas le temps, chronos, et le devenir, kénésis. Alors, quel est le rapport de Nietzsche à l'un et à l'autre? Le temps, c'est ce flux irréversible qui fait tout passer. Bien. La volonté ne peut pas vouloir en arrière, etc.
C'est d'où, ça, ressentiment.
D'où le ressentiment. Mais le temps, ce temps-là, est un concept. C'est-à-dire que c'est le concept qui unifie, là encore, une multiplicité d'événements en conflit et qu'on pense toujours selon le schéma de la succession. Or, Nietzsche, sur ce point, et là je vais être universitaire, comme il l'était, et rester conscient. C'est-à-dire qu'en fait, le temps n'a pas de pouvoir. Il n'a pas la puissance de faire passer. Ce qui existe, ce n'est pas le temps. Le temps, c'est notre représentation, ce n'est rien d'autre. Ce qui existe, c'est le devenir. Ce sont les événements. Or, les pensées sont des événements pour Nietzsche. Elles viennent quand elles veulent, pas quand je veux.
Vous prenez la fameuse... C'est extraordinaire quand même. Revenons au concret. Il y a des situations physiques évoquées par Nietzsche, notamment dans son Zarathoustra. Vous êtes dans la fameuse scène du portique, c'est-à-dire l'instant. Alors, à ce moment-là, c'est pas un fameux passage admirable. Vous êtes avec ce qui vient jusqu'à vous, puis vous avez l'avenir, ça vient... De loin, de très loin, et puis ça va très très loin. Et c'est le moment où il faut dire oui ou non à ça. Alors, dans la vie quotidienne de chacun, en principe, il y a une prise de position un jour ou l'autre sur le temps. Et c'est là où la question religieuse devient très importante. Et c'est la raison pour laquelle, en effet, que ce soit Platon qui dispose au christianisme, ou le christianisme lui-même, la réflexion de Nietzsche est absolument capitale. C'est-à-dire, sommes-nous dans un flux irréversible qui nous ne pouvons imaginer que dans un au-delà qui nous comblerait dans une éternité, etc. C'est ça, ce sont les arrière-mondes, etc. Ou bien, ici, tout de suite, maintenant, je dis que ma vie va se répéter éternellement, ce qui est une proposition invraisemblable. Tout le monde se lève et dit, monsieur, vous exagérez. Vous n'êtes pas à la radio pour dire que votre vie, là, maintenant, cette interview, par exemple, va se répéter éternellement, que nous allons nous retrouver ensemble en train de dire ce que nous disons. Et pourtant, c'est une hypothèse, elle est vertigineuse, mais pourquoi pas ?
Pardon, l'éternel retour, ce n'est pas un fait, c'est une pensée. Et Nietzsche n'a jamais cessé de le dire.
C'est une pensée. Qui n'est pas distincte d'un fait.
Ça veut pas dire que votre vie va se répéter une fois, deux fois, dix fois.
Sinon, vous seriez idéaliste à votre tour.
Nous reprenons les vendredis de la philosophie consacrés à Nietzsche intempestif. Alors, un extrait de Carmen, et je vous lis le passage du cas Wagner, traduit par Patrick Wötling.
Par Eric Blondel.
Et par Eric Blondel, tous les deux, voilà. Et donc, cette phrase qui dit, enfin, cette, ça commence comme ça. « J'ai entendu hier, le croirez-vous, pour la 20e fois, le chef-d'œuvre de Bizet. J'ai persévéré une fois de plus jusqu'à la fin, dans un doux recueillement. Une fois de plus, je n'ai pas détalé en courant. Cette victoire sur mon impatience me surprend. À quel point une telle œuvre vous rend parfait à son contact, on devient soi-même chef-d'œuvre. Et effectivement, chaque fois que j'ai entendu Carmen, je me suis senti davantage philosophe, meilleur philosophe que jamais nulle part ailleurs. »
Voilà.
Alors, étonnant, hein ?
Oui.
Étonnant.
Mais
alors,
non, mais ça, il faut situer ça par rapport à la lutte de David contre Goliath, c'est-à-dire de Nietzsche contre Wagner, voir qu'est-ce qu'on pouvait entendre comme musique à l'époque. Alors, pas beaucoup. Et là, c'est l'idée de Nietzsche, sa sensation profonde, c'est le sud, tout de suite. Oui. Allons au sud, trouvons du sud. Alors, une petite espèce.
C'est Nice, Gênes, Venise.
Oui, le sud, et donc l'Italie, et donc, vous savez, qu'il voulait partir. Le nord, c'est quelque chose de très menaçant. Wagner est très menaçant, annonce quelque chose comme une catastrophe allemande. Que Nietzsche diagnostique et prophétise, ça a eu lieu, n'est-ce pas, ou pas, je crois. Et donc, c'est Mozart, c'est le sud. Allons vers le sud.
Alors, Mathieu Kessler, tout à l'heure, on faisait référence au corps, et Philippe Solers a dit, oui, c'est aussi le corps, c'est le corps de la danse, donc le corps aussi qui est sur l'opéra. Alors, Mathieu Kessler, vous avez écrit sur justement cette conversion, en quelque sorte, de la métaphysique vers l'esthétique. Alors, qu'en est-il justement de ce modèle qu'est l'art, alors la musique, la danse, l'opéra, la tragédie, en quoi est-il un modèle ou un contre-modèle pour
la musique, c'est ça qui est
la métaphysique.
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Alors, Mathieu Kessler.
Sans la musique de Georges Bizet, la vie serait une erreur. Sans le son de la cornemuse aussi, c'est l'un des traits de Nietzsche en préambule, enfin dans la toute première partie du Crépuscule des idoles. On le trouve dans un fragment posthume, à un moment donné, il entend par hasard le son d'une cornemuse, et alors qu'il est probablement, il traverse un moment dépressif, le champ d'existence.
Des gondoliers à Venise.
Et puis, finalement, il reprend goût à la vie simplement grâce au son de cet instrument puissant. Ouais. Oui. Et donc, effectivement, Nietzsche a cherché dans la musique l'optimisme, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'il pouvait être en tant que philosophe. En tant que philosophe, c'est pas non plus un pessimiste parce qu'il critique le pessimisme de Schopenhauer, mais c'est un pessimiste de la force. Oui. C'est-à-dire
en même temps, il aimait Chopin. Hein. Je veux dire, je sais pas si c'est spécialement optimiste ou pessimiste, mais il aimait bien Chopin.
Oui,
il a écrit des choses d'ailleurs. Il a écrit aussi un peu des chopinades. Hein. Il a composé un peu.
Savez-vous que Nietzsche ne pouvait pas écouter la musique qui nous est disponible aujourd'hui? Je peux vous apporter 100 compacts de Handel, de Haydn, de Mozart. C'est-à-dire, c'est la misère de ce temps. C'est ça qu'il faut voir. Quel est ce héros de ce temps-là, qui est un temps d'extraordinaire misère? Là, nous venons d'écouter une femme qui chante comme ça. C'est ironique aussi chez Nietzsche, la référence à Bizet, bien entendu. Et donc, mais c'est contre, c'est qu'est-ce qu'il veut marquer par là? Que les Valkyries frigides dans leurs armures sont devenues insupportables. Que la misère sexuelle au 19e siècle est devenue irrespirable, comme tout le prouve. Et il va y avoir une grande catastrophe, en effet, un refoulement tel que, voilà, c'est ça qu'il veut dire. C'est que la sensualité n'est plus là. Et est-ce que nous sommes encore avec des corps qui perçoivent, qui sentent, c'est-à-dire avec les cinq sens? C'est ça. Alors, et la musique étant le sens suprême, l'audition.
Alors, Mathieu Kessler, est-ce que ça veut dire que, donc, pour la philosophie, prendre le modèle de l'art?
Non, c'est pas prendre le modèle de l'art, mais
vous
c'est...
Vous avez dit le paradigme. Vous vous dites un paradigme artistique chez Nietzsche.
Oui, mais
il
faut se méfier. Il y a justement un problème d'interprétation. On parlait tout à l'heure de l'histoire des interprétations de Nietzsche. Nietzsche, oui, bon, le philosophe artiste, mais ça peut créer de graves confusions parce que tout de même, pour Nietzsche, il existe une séparation absolue des fonctions philosophiques et esthétiques. Le sens de l'art...
Il écrit d'une certaine façon, tout de même.
Oui, bien sûr, mais disons que l'art ment, en somme. Et c'est très bien comme ça.
Oui, mais il y a un art d'écrire.
Et le philosophe, quand même, sa fonction, c'est d'être lucide. Et étant lucide, il peut mettre à jour la problématique du nihilisme. Alors que l'artiste n'a pas à le faire. C'est ça le point de vue de Nietzsche. Et par là même, Nietzsche développe des goûts assez réactionnaires par rapport à son époque. Mais c'est tout à fait cohérent si on comprend bien qu'il recherche en fait un équilibre entre son acte philosophique qui finalement le rend malade et puis la guérison qui intervient par le mensonge de l'art.
Qu'est-ce que vous appelez réactionnaire? Le fait de ne pas marcher dans l'opium wagnérien?
Il est hostile à toute recherche de dissonance, toutes les innovations esthétiques, vraiment.
En quoi ça serait réactionnaire?
Je vais citer un passage aussi de Crépuscule des idoles, traduit par Eric Blondel et Patrick Votling. Et il dit donc dans la préface, c'est intéressant, il dit sur le marteau, il se dit philosophe au marteau. Donc il y a toujours, c'est à la fois philosophe au marteau et philosophe artiste. Et en même temps, il dit le marteau, on le frappe ici comme un diapason, comme intéressant.
Que les idoles sont creuses. Voilà. Le crépuscule des idoles s'oppose au crépuscule des dieux. C'est Wagner.
Ça s'adresse aux oreilles.
C'est donc un texte formidable de la fin. Enfin, et on a un petit marteau, on frappe les idoles et on voit qu'elles sont creuses. Ce que je voudrais
Monique Dixot. Continuer ce que vient de dire, ce qui vient d'être dit. C'est ce que vient de dire Mathieu Kessler, c'est-à-dire que le philosophe doit être artiste, c'est-à-dire effectivement avoir l'art d'écrire. Bon, il y a un art d'écrire chez Nietzsche qui a étudié mieux que personne, je crois, Eric Blondel. Mais le philosophe doit être artiste, il ne doit pas être un artiste. Il doit être savant, il ne doit pas être un savant. Et le problème de Nietzsche, qui était aussi à mon humble avis celui de Platon, c'est que la philosophie, à la différence de l'art et de la science, n'arrive pas à engendrer son sujet, le philosophe. À chaque fois qu'elle a tenté de l'engendrer, elle a engendré quelque chose comme un entendement réformé, Spinoza, comme une raison pure, Kant, comme un esprit absolu, etc. C'est-à-dire quelque chose de désincarné qui, justement, n'a rien d'un aventurier. On peut dire ça comme ça. Chez Nietzsche, comme chez Platon, le philosophe, c'est quelque chose qui est toujours suivi d'un point d'interrogation. Existe-t-il de tels philosophes ? Y a-t-il jamais eu de tels philosophes ? Etc. Et un des derniers mots de Nietzsche, c'est Dionysos philosophos. Dionysos, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui fait retour, qui va revenir, hein, comme dans les Bacchantes, bon, qui a été en exil et puis qui revient.
Mmh, comme Zarathustra.
Et le philosophe, c'est toujours celui qui advient à un certain moment sans que jamais ce soit prévisible.
Et alors
c'est quelque chose qui annonce, qui est l'avènement d'une manière nouvelle de penser, parce que c'est la vie, bien entendu. C'est la vie qui engendre le philosophe. C'est pas la philosophie, je suis bien d'accord
absolument,
avec vous.
Absolument.
Mais pourquoi est-ce que la vie a-t-elle a besoin d'engendrer, quelquefois, un philosophe ? En quoi a-t-elle besoin pour devenir plus légère, plus intense, plus exubérante, etc. En quoi a-t-elle besoin de penser ? Et c'est ça, je crois, le problème de Nietzsche.
Vous disiez, bon, la question du style, alors. Mais, bon, est-ce que Nietzsche, parce que vous dites, sa situation dans l'histoire de la philosophie est quand même très complexe. Bon, alors, est-ce que c'est un philosophe, c'est un antiphilosophe, c'est un poète ? Bon, Zarathustra aussi est un immense poème. Dans ce rapport, justement, au concept qu'il ne cesse de dénoncer, hein, en disant voilà, que le concept est constitué toujours d'une sédimentation de métaphores, qu'il refoule la métaphore, et donc dans cette manière d'assumer pleinement le style et les figures et les métaphores, est-ce qu'il n'y a pas une subversion là aussi quand même très radicale du langage philosophique et qui fait que sa situation aussi le discours, dans le langage, dans la manière d'écrire aussi la philosophie, fait
dans une antinomie que Nietzsche n'a cessé dès le départ, alors vraiment dès le départ, de refuser celle du concept et de la métaphore, parce que précisément pour opposer
une large critique.
Concept et métaphore, le livre du philosophe, entendu.
Bien sûr,
il faut avoir le concept du concept et le concept de la métaphore. Or, précisément, c'est ce que, selon Nietzsche, nous n'avons pas. Autrement dit, c'est chaque texte de Nietzsche, dans chaque texte de Nietzsche, et on peut le montrer, j'ai essayé de le montrer au moins sur un texte, dans chaque texte de Nietzsche, c'est le style et la perspective qu'il adopte, parce qu'il ne faut pas oublier la notion de perspective chez Nietzsche, sinon on ne parle pas de Nietzsche. Bon, c'est le style imposé par la perspective qu'il adopte qui permet de faire le départ de ce qui, dans ce texte, est concept ou métaphore. Mais il y a des textes de Nietzsche, je pourrais vous en citer 25, où Nietzsche dit que le philosophe a besoin autant de l'abstraction, de l'induction, de la logique, du raisonnement, qu'il a besoin d'enthousiasme, d'inspiration.
Oui,
non,
mais bien sûr.
Ah, mais il n'y a pas de critique du concept en tant que concept.
Sur cette question du style, je crois qu'il est quand même important de dire qu'on reconnaît immédiatement les aphorismes. On sait très bien comment la lecture qu'il a faite, intensive, des moralistes français. Oui. Et ça m'intéresse beaucoup sur le plan de la langue, de savoir pourquoi Nietzsche parsème de plus en plus, avec le temps, ses textes de mots français. Oui. Il est tourné vers le français. Et là, quelque chose comme un appel
au... La poésie française.
Alors, qu'est-ce qu'il aime ? Il aime Montaigne, il aime les moralistes français.
Stendhal.
Admirablement. Stendhal, bien sûr.
Baudelaire.
Oui. Voilà. Alors, ça me paraît très important, parce que je trouve que Nietzsche, en réalité, est en chemin. Il n'est pas venu en France. Mais enfin, à la fin du 19e siècle, il trouve que les Français sont admirables dans la décomposition intéressante des nihilistes, là, sont vraiment en train de faire une
expérience. Les décadents.
Il y a Dostoïevski aussi, mais enfin, Dostoïevski. C'est-à-dire, mais là, ils sont intéressants, Baudelaire, tout ça, l'hystérie nihiliste est là. Et alors, il dit quelque chose d'admirable dans une lettre. Il dit, voilà, tous ces messieurs sont très bien. J'aurais été très, très bien au dîner des Goncourt, tout ça. J'aurais été avec Flaubert et tout. Le scepticisme complet. Mais il leur manque quoi ? La force. Et en effet, c'est-à-dire quelque chose pour dire oui. N'empêche que le français, et alors les formules de Nietzsche, vous savez très bien que ses livres sont parsemés d'aphorismes, qu'il est, c'est un écrivain aphoristique de la maxime. Et donc, celui que j'entends là, à travers Nietzsche, c'était quelqu'un de la même époque à peu près. C'est, en français, c'est les poésies de l'autre amont, par exemple. Vous ouvrez les poésies de l'autre amont et vous avez quelque chose d'immédiatement, de refonte complète, de retournement complet. Donc, les gémissements de ce siècle ne sont que des sophismes. Voilà. Les grands sentiments viennent de la raison. Donc, comme nous n'avons pas encore, en français, pris acte des poésies de l'autre amont, il est possible que nous ayons encore des difficultés avec Nietzsche, et surtout avec cette forme parfaite, immédiatement parfaite, de l'aphorisme.
Mais oui. Nietzsche n'a pas écrit que des aphorismes.
Je n'ai pas dit qu'il avait écrit que des aphorismes, mais j'ai dit qu'il avait écrit des aphorismes
fort,
au cas où on n'en reparlerait pas.
Il a écrit des aphorismes.
Oui, ça c'est sans aucun doute.
Oui. Tout à fait.
Oui. Sur la question du style, Monique Nixon, je reviens quand même à la question métaphore concept. Il est évident qu'il ne donne pas un congé au concept, mais on ne peut plus utiliser le concept de la même façon qu'avant. Je dirais à partir du moment où on comprend comment un concept fonctionne, avec Nietzsche, il y a quand même une rupture forte. Ça ne veut pas dire qu'on le congédie.
Regardez l'histoire du
concept. Ce qui veut dire.
Vous avez l'air de dire, oui, il prend des métaphores et des concepts, mais il y a quand même.
Regardez au mot dont nous ne parlons pas
assez. Qu'est-ce qui est concept chez Nietzsche, pardon? C'est, je pourrais dire que lourd, léger, lent, rapide, la mer, l'homme, la femme, etc. Ce sont des concepts. Il en fait des concepts, il en fait même des catégories. Bon. Ça veut simplement dire qu'il construit ses concepts, comme la philosophie, comme tout philosophe a toujours construit ses concepts. Oui.
Bon, alors, on a parlé de l'esthétique.
Chez tout philosophe, chez Platon, tout concept est une métaphore.
Ce n'est pas un philosophe, c'est un dieu philosophe. C'est tout à fait différent.
On a parlé d'esthétique.
Un dieu et philosophe.
Dionysos, philosophe.
J'aimerais qu'on dise un mot aussi, quand même, parce que dans les récupérations, justement, ça posait problème de Nietzsche, d'un aspect... politique, parce que politique ou au sens large. Bon, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Nietzsche, évidemment, on peut se dire que son côté intempestif, c'est aussi, que c'est un philosophe foncièrement inégalitaire, enfin, en tout cas, qui est antidémocrate.
Je peux vous donner un témoignage tout de suite. L'autre jour, j'ai reçu un journaliste cubain, très, très bien, qui essaye de faire passer quelque chose dans ce pays totalitaire. Je lui cite Nietzsche et il me dit, mais oui, mais ça va être très difficile. Je ne sais pas si je pourrais le mettre dans mon article, parce que chez nous, Nietzsche est considéré comme un philosophe fasciste. Alors voilà, nous sommes immédiatement dans cette falsification. Et là, il faut voir à quoi on a affaire.
Alors comment on peut entendre aujourd'hui ?
Bien sûr, tout est égalitaire à Cuba. Et d'ailleurs, le totalitarisme a été très égalitaire. Nous savons très bien ça. Staline en a fait la démonstration.
Bon, comment on peut entendre aujourd'hui ces professions de foi, donc sur une aristocratie qui n'est certes pas, bon, c'est dans Zarathoustra, une aristocratie
qu'est-ce
du
qui
sang.
Est noble ?
Voilà, qu'est-ce qui est noble ? Qui n'est pas une aristocratie du sang, qui n'est pas une aristocratie de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est quand même, on a quand même une pensée qui est foncièrement inégalitaire, non? Est-ce qu'on peut l'entendre aujourd'hui? Comment l'entendre?
Au contraire, vous avez non, tout le monde peut être noble. Il n'y a pas plus égalitaire.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut...
Sauf que ça ne dépend ni des privilèges, ni de la vieille aristocratie qui est tombée désormais dans le caniveau people, etc. Il ne s'agit pas du tout d'être réactionnaire, de vouloir revenir en arrière sur des vieilles notions de noblesse. Il n'empêche qu'il y a une noblesse de l'esprit. Cette noblesse de l'esprit, elle peut absolument toucher n'importe qui à tout instant. Et voilà ce qui est surprenant et vertigineux. Qu'est-ce qui veut marquer que ce n'est pas possible? Tout ce qui tient à des hiérarchies, de classe, de race, de religion, etc. Nous sommes en plein dans ce tourbillon de croyances devenues folles. Non, n'importe qui peut être noble. Alors qu'est-ce qui est noble? Évidemment, ça n'est pas du tout ce qu'il appelle de plus en plus la plèbe. Ce n'est pas du tout le peuple. Nietzsche vous dit sans arrêt, nous allons vers la dictature de la plèbe. Plèbe en haut, dit-il, et plèbe en bas.
Oui. Ça veut dire plèbe grégaire,
en haut, la circulation monétaire la plus extravagante, plébéien en haut, plébéien en bas. C'est-à-dire dictature de la plèbe, et ça annonce une tyrannie, vous dit-il. Hein, donc ce n'est pas du tout inégalitaire, bien au contraire.
Comment on peut entendre cette condamnation de la morale des faibles aujourd'hui, cette
morale des esclaves,
oui, morale des esclaves, du ressentiment.
Les maîtres sont devenus des esclaves eux-mêmes et sont plébéiens.
Est-ce que la dimension politique, il faut l'écarter ou bien l'assumer
Elle est très importante.
Eric Blondel, Mathieu Kessler. Monique Dixot, alors, non ?
Moi, je dirais bien quelque chose.
Éric Blondel.
Je souhaiterais quand même pouvoir parler deux minutes sans être interrompu par M. Solers.
Allez-y, mais non, allez-y, on vous donne la parole, Éric Blondel.
La politique, il ne faut pas en parler trop parce que ça ne fait partie que des idées modernes. Donc, c'est un pan, et un pan assez limité des obsessions de Nietzsche, de son intempestivité contre les idées modernes. Mmh. Bon. Il s'agit pour lui de diagnostiquer une faiblesse qui consiste dans l'abolition du sens de la distance. C'est-à-dire, je ne suis pas ton égal, je ne passe pas sous la même loi que toi. Il y a quelque chose d'égalitariste, selon Nietzsche, dans l'impératif catégorique kantien, parce que ça passe par la forme universaliste. Bon. Mais je voudrais rebifurquer vers quelque chose qui obsède Nietzsche davantage, c'est ce que vous avez dit sur le corps. Sa grande idée, c'est que le style et le corps doivent avoir quelque chose comme de la grandeur, de la force. Et cette force s'appelle, d'un mot qui est difficile aussi à rendre en français, la gaieté d'esprit ou la belle humeur, oui. Comme j'ai traduit moi-même, c'est Heiterkeit. C'est un mot que Nietzsche utilise de plus en plus. Et qu'il utilise, comme M. Solers l'a rappelé à juste titre d'ailleurs, à propos de Mozart. Ça définit une certaine façon d'écrire, une certaine façon de vivre, une certaine attitude du corps lorsqu'il écoute de la musique ou lorsqu'il en joue. Ce qui fait que Nietzsche ne peut pas supporter qu'on puisse s'endormir et se sentir déprimé, constipé, avec le souffle court quand on écoute de la musique. Il dit « j'ai besoin de moi de pastilles Géraudel ». De même, le corps doit avoir sa gaieté, passer à la force. Et c'est les considérations de Nietzsche dans Ecce Homo, dont vous parliez tout à l'heure, que j'ai traduit, pour mon bonheur d'ailleurs, où il dit « moi, j'ai passé une grande partie de ma vie à nier mon pouvoir vivre avec la cuisine allemande. Il n'y a rien de tel que pour vous détruire. »
Oui, oui, oui. Écoutez, je disais juste un dernier mot, parce que je voudrais vous poser une dernière question à tous, parce que l'émission touche à sa fin. Est-ce que ça peut avoir un sens aujourd'hui de se dire nietzschéen ? Voilà. Est-ce que ça peut avoir un sens aujourd'hui ? Je voudrais vous poser la question. On termine là-dessus. Mathieu Kessler.
Oui, alors pour moi, ça a un sens qui demeure inactuel. C'est-à-dire que Nietzsche, dans son caractère inactuel, parvient à poser un problème qui est celui des deux prochains siècles, comme il le dit lui-même. Donc nous en sommes en plein. Que les autres ne voient pas, que son époque n'arrive pas à percevoir. Pour moi, c'est celui de trouver un juste équilibre dans la vie entre la religiosité et le cynisme.
Monique Dixot.
Je vais vous répondre avec une phrase de Nietzsche. Il est inactuel aussi longtemps que l'on trouvera inactuel ce qui a toujours été d'actualité, ce dont aujourd'hui plus que jamais nous avons besoin, que l'on dise la vérité. Alors, la vérité que dit Nietzsche, c'est une vérité proliférante, il faut la mettre au pluriel, elle est meurtrière, elle est mensongère, mais c'est quand même la vérité qu'il faut dire.
Philippe Solers,
je répète, nous sommes en 119 et voilà le vrai calendrier.
Très bien, je vous remercie. Et d'ailleurs, je renvoie à ce livre qui prend acte de ce nouveau calendrier, Une vie divine, un régal de lecture, le dernier roman de Philippe Solers. Vous avez aussi publié des entretiens avec Vincent Roy au Cherche Midi, L'Évangile de Nietzsche, et puis un DVD aussi, un film de Jean-Hugues Larcher, qui fait partie donc de la collection des éditions Les Films du Lieu-dit. C'est donc un entretien avec Philippe Solers. C'est Eric Blondel. Je rappelle Nietzsche, le corps et la culture au PUF en 86. Il y avait aussi Nietzsche, le cinquième évangile, les bergers et les mages en 80.
Le livre va être réédité. Il était épuisé. Il va être réédité fin octobre.
Monique Dixot, Nietzsche par-delà les antinomies aux éditions de la Transparence, qui vient juste de paraître. Et je rappelle aussi que vous avez dirigé la querelle autour de la naissance de la tragédie. Mathieu Kessler, Nietzsche ou le dépassement de la métaphysique, PUF 99. Et l'esthétique de Nietzsche, PUF 88. Vous retrouverez ça sur le site. C'était les Vendredis de la philosophie, présenté par François Noudelman, réalisé par Pierrette Perronneau et Jacques Vincent, avec la collaboration de Marianne Chasseur et l'aide de Stéphanie Granizou. Notre prochaine émission, ça sera donc vendredi prochain, vendredi 13, sur les constructions de la souffrance avec Yana King et Richard Reichmann.